un podcast France Culture.
Le Suriname sera-t-il le prochain Eldorado pétrolier de Total Energy ? Patrick Pouyanné, le PDG de l'entreprise, a dévoilé hier son nouveau projet, estimé à plus de 8 milliards d'euros.
Nous avons identifié deux grandes sources de pétrole au large du Suriname. Elles contiendraient près de 700 millions de barils de pétrole.
200 000 barils devraient être exploités chaque jour au large du Suriname, son premier projet pétrolier offshore. L'entreprise française participerait à 50% de ses exploitations aux côtés d'une société américaine. Des études de développement vont être lancées. Total Energy compte rendre sa décision d'ici fin 2024.
Alors que chaque année, de nouveaux records de chaleur sont enregistrés sur notre planète qui subit les effets directs du réchauffement climatique, l'extraction et l'exploitation des énergies fossiles sont plus que jamais au cœur de discussions, de projections et de débats. Dans ce contexte, une commission d'enquête se déroule au Sénat depuis le 25 janvier sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Energy des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous avons donc choisi de porter notre regard sur ce fleuron français qui est Total Energy, une entreprise dénoncée par certains comme climaticide, quand d'autres relèvent un virage engagé vers les énergies renouvelables. Avec nous pour en discuter, trois invités. Michael Correia, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste climat à Mediapart et auteur du livre Le mensonge total, enquête sur un criminel climatique, un livre édité au Seuil. Avec nous également Pierre-Louis Choquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et auteur avec Christophe Bonneuil et Benjamin Franta d'un travail de recherche sur Total et Elf et intitulé Alerte précoce et responsabilisation émergente, les réponses de Total au réchauffement climatique 1968-2021. On voit qu'il est précieux effectivement de remonter dans le temps. Et avec nous également en distanciel, donc Yamina Saeb, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur, docteur en énergétique et professeur à Sciences Po Paris, l'une des auteurs du troisième volet du rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique. Et puis dans l'œil du monde planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Guillaume Delacroix, reviendra sur le naufrage du Rubimar en mer Rouge au large du Yémen et sur la menace de pollution majeure dans la région. Bienvenue à toutes et à tous, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, en direct, toujours préparé par Anaï Morales avec Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec, à la technique ce soir, Ludovic.
Total Energy va augmenter sa production de pétrole et de gaz de 2 à 3% par an sur les 5 prochaines années. Alors malgré le réchauffement climatique, pourquoi produire toujours plus d'hydrocarbures ? Pour tenir cet objectif, Total Energy signe toujours des contrats et investit dans le pétrole. 200 000 barils par jour à terme au Suriname. En Irak, augmentation de la production de ce champ pétrolier. Et en Ouganda, la compagnie a commencé à forer de nouveaux puits. Le groupe parie aussi sur le gaz naturel liquéfié, notamment au Qatar, Mozambique, Texas et Mexique. Aujourd'hui, la demande mondiale de pétrole est au plus haut et devrait même encore augmenter dans les prochaines années, avec un pic prévu en 2028. Trop tard pour les climatologues qui appellent à arrêter les investissements dès maintenant pour lutter contre le réchauffement climatique.
Eh bien, de façon très claire, nous n'avons plus que 5 années d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. Si nous voulions limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est une fuite en avant, je crois, du secteur fossile.
C'est un extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 28 septembre 2023 et avec la voix reconnaissable en fin de reportage de Jean Jouzel. Mais avant toute chose, il nous faut préciser que nous avons bien entendu lancé une invitation à Total Energy qui a décliné l'offre et n'a pas souhaité mandater quelqu'un pour prendre part à notre émission. Donc nous le regrettons et tout en précisant du côté de Total Energy qu'ils étaient en désaccord avec l'enquête de Michael Correia. Ce livre, intitulé « Le mensonge total », Michael Correia, c'est un travail que vous avez mené de quelle façon ?
C'est un travail qui est mené depuis 3 ans. Ça fait 3 ans là que je suis arrivé au pôle écologie de Mediapart. Donc c'est pas une enquête au long cours, hein. C'est vraiment un regroupement d'enquêtes qui sont produites donc depuis 3 ans, qui ont été ensuite rassemblées avec différentes thématiques. Là, j'ai regardé juste avant d'arriver à l'émission, on a produit en tout, moi mais aussi quelques collègues qui m'ont aidé, une trentaine d'articles, enquêtes là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous on fait notre travail de journaliste et quand on réalise une enquête, on fait ce qu'on réalise à chaque fois, ce qu'on appelle le contradictoire. Ça veut dire que nous, on trouve des faits sur l'entreprise, sur des méga-projets, sur des batailles judiciaires aussi en cours. Et ensuite, nous, on va interpeller Total pour dire, voilà, on a trouvé ça, ça et ça. Quelle est votre réaction pour l'intégrer au papier? Donc, il y a une relation qui est établie depuis un bout de temps avec Total, avec notamment la direction, la communication. Et à chaque fois, qui plus est, nous, à Mediapart, on a un objet très particulier qui s'appelle la boîte noire. En fait, le lecteur peut voir un peu ce qui s'est passé en coulisses, qu'on a emmené l'enquête. Et moi, je m'attache à chaque fois en boîte noire et à minima en annexe de mes enquêtes, de dérouler la réponse complète de Total Energy, comment ça s'est passé les échanges, genre voilà, j'ai envoyé un mail à telle date, ils m'ont répondu à telle date et voilà l'ensemble de leurs réponses.
Donc tout ça c'est accessible pour les auditeurs qui voudraient pouvoir regarder comment ça s'est
passé. Exactement, oui, à chaque fois vous regardez en bas de l'enquête, donc ça c'est vraiment c'est une des pratiques de base du journalisme d'investigation, c'est d'ensuite aller voir la personne qu'on a investiguée pour lui demander ensuite, voilà, on a trouvé ça, quelle est votre réponse face au fait qu'on a nous trouvé.
Yamina Saeb, c'est une entreprise Total Energy qui suscite de plus en plus d'attaques dans un contexte de réchauffement climatique et face à des rapports scientifiques aussi qui ont dressé, établi un état des lieux des responsabilités des différents secteurs de nos sociétés dans ce réchauffement climatique. On trouve en première place les énergies fossiles comme étant les plus, ces entreprises, donc les génératrices de gaz à effet de serre.
Oui, alors le réchauffement climatique est dû à l'accumulation de gaz à effet de serre et les énergies fossiles sont responsables de 3/4 environ des gaz à effet de serre accumulés qui engendrent tous les impacts climatiques que l'on connaît. Donc la responsabilité des entreprises qui travaillent dans les énergies fossiles, dans le cas de Total, souvent on pense plutôt pétrole et gaz, mais à un moment donné Total avait aussi fait dans le charbon aussi. Donc, elle a vraiment travaillé sur les 3 énergies fossiles qui sont la cause principale, l'une des causes principales du changement climatique.
Alors, on peut se demander, bien sûr, depuis quand est-ce que Total connaissait les effets des énergies fossiles sur le climat et la planète? Pierre-Louis Choquet, ça a été justement le travail que vous avez mené avec Christophe Bonneuil et Benjamin Franta.
Tout à fait. Nous avons travaillé sur des archives des deux entreprises, en fait, Total et Elf, avant leur fusion. Au début de ce siècle, pour montrer qu'il y avait une émergence progressive des connaissances sur les questions climatiques à l'intérieur du groupe Elf notamment, qui s'était faite en conjonction avec une montée en compétences des autres entreprises de l'industrie pétrolière, notamment aux États-Unis, le groupe Exxon notamment, bien connu, et que voilà, au fil des années 70-80, il y a une montée en compétences progressive sur ces questions climatiques, jusqu'à ce que se mettent en place des politiques d'obstruction contre toute nouvelle forme de régulation des émissions de gaz à effet de serre au début des années 90. Donc c'est toute cette longue séquence qu'on a étudiée dans ce travail historique pour arriver jusqu'au début des années 2020, mais une période qui est peut-être plus connue des auditeurs.
Michael Correa.
Moi, je voulais réagir. Effectivement, il y a un peu dans notre imaginaire, on a cette idée que le scientifique travaille dans son laboratoire, le scientifique du GIEC est dans son coin, le GIEC a été créé en 88, le premier rapport c'est 90, et qu'il y a une espèce de montée en puissance de la sensibilisation des gens à la question climatique. Et au fait, justement, les travaux de Pierre-Louis Choquet avec Christophe Bonneuil et Benjamin Franta nous démontrent que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'effectivement, Total était déjà au courant dès les années 1971, c'est 1971 où c'est mentionné la première fois.
Un rapport d'un géographe François Durand d'Astès.
François Durand d'Astès, qui est pas n'importe qui à l'époque, c'est un spécialiste de la mousson des Indes, c'est quelqu'un qui est beaucoup irrigué par la littérature anglo-saxonne. Et même quand on remonte un peu plus loin, on voit que il y a déjà notamment la Maison Blanche qui va demander un rapport à l'Académie des sciences aux États-Unis, et donc qui va, c'est en 65, hein. Et on sait déjà que l'industrie pétrolière américaine va être au courant de ce rapport-là. En fait, on sait qu'en fait, en gros, l'industrie pétrolière est déjà au courant de la nocivité de ses activités dès la fin des années 60, année 1970. Après, il y a toute la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en fait partir de là et
comment ils ont réagi, quelle a été la stratégie en fait adoptée. Yamina Saeb.
Oui, alors en fait, sur l'histoire, quand on remonte, même ce qui est à l'origine de la création du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, c'est justement le fait que les Exxon et les compagnies pétrolières américaines avaient déjà des preuves, bien avant 1970, ça commence dans les années 50 pour elles, des preuves que leurs activités avaient un impact sur le réchauffement de la planète, sur l'accumulation des gaz à effet de serre. Et le GIEC a été créé dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez, ces compagnies-là ne peuvent pas nier qu'elles savaient, puisque c'est le fait qu'elles le savaient qui a donné naissance au GIEC.
Pierre-Louis Choquet,
pour avoir une évaluation scientifique de la situation, en fait. C'était ça l'objectif du GIEC. C'est toujours ça l'objectif du GIEC.
Pierre-Louis Choquet, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quelle a été la stratégie adoptée?
Peut-être pour rebondir sur ce que disait Yamina Seb à l'instant, c'est que effectivement il y a eu des circulations en fait entre le milieu de l'industrie pétrolière et les milieux universitaires aux États-Unis pendant les années 70 et les années 80. Exxon dans les années 80 a affrété, la fin des années 70 a affrété des programmes de recherche fondamentales en sciences climatiques, affrété un tanker pour faire des mesures, des transferts entre l'atmosphère et l'océan, des transferts gazeux entre l'atmosphère et l'océan, donc faire vraiment des sciences fondamentales. Et en fait, cette connaissance précoce, on va dire des sciences climatiques au sens large, de la modélisation, a permis aux entreprises d'être très finement informées en fait de cette science qui était en train d'émerger et des enjeux de gouvernance en fait qui allaient être de plus en plus prégnants à partir du moment où le GIEC a été créé à la fin des années 80 avec la première conférence de Rio en 1992 et donc cette porosité qui s'est ensuite un petit peu estompée cette circulation entre les milieux universitaires et l'industrie pétrolière s'estompe mais elle a permis à ces entreprises d'être vraiment aux premières loges de la consolidation de ce constat sur le réchauffement climatique. Et voilà.
Et au début des années 90, on commence à voir des États parler de taxation, taxer les énergies fossiles. Donc là, il y a plus une stratégie de défense aussi. On est encore dans ce qu'on appelle la fabrique du doute, parce que l'opinion publique n'était pas forcément suffisamment informée aussi. Et ce que vous montrez, Pierre-Louis Choquet, donc avec Christophe Bonneuil et Benjamin Franta, c'est aussi ce que vous appelez une stratégie du récit, je crois. Et que en 2002, si j'ai bien relevé dans vos travaux. Vous remarquez que l'entreprise utilise encore le conditionnel pour évoquer les origines humaines du réchauffement climatique et qu'il faut attendre 2006 pour voir une adhésion au consensus scientifique. 2006.
Oui, en fait, en reprenant ce travail d'histoire avec deux collègues, moi-même je suis sociologue, j'étais amené à relire peut-être plus en détail ces documents qui avaient été produits par l'entité fusionnée, donc Total, issue de la fusion de Total et Elf au début des années 2000, et je me disais, avant de les relire, mais à cette époque-là, le PDG de Elf, avant la conférence de Kyoto en 1997, avait pris la parole dans un entretien au Monde et avait dit qu'il fallait respecter le consensus scientifique, etc. Donc je me disais qu'il n'y aurait pas eu forcément de communication contraire ensuite. Et en fait, dans ces rapports, 2002, 2003, 2004, on aperçoit encore des traces de climato-scepticisme qui compliquent en fait, le récit d'une entreprise tout à fait alignée avec cette science climatique.
Michael Correa, et ensuite on retournera vers Yamina.
Oui, oui, effectivement, c'est jusqu'à 2006. Bon, le tournant, c'est vraiment l'accord de Paris de 2015. Là, ils sont vraiment au pied du mur. Oui. On voit qu'ils sont vraiment un peu obligés de, effectivement, mettre en récit cette climatologie, cette solidité d'effets climatiques. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce que disent les travaux de Pierre-Louis Choquet et de ses collègues, c'est qu'on voit vraiment, vous parlez de récit, effectivement, il y a une espèce de récit qui va s'installer, c'est une espèce de division du travail, en fait, entre d'un côté les scientifiques qui vont produire vraiment de la science, et d'un côté Total Energy qui va notamment dire, nous aujourd'hui on est des acteurs inconditionnels, incontournables pour effectuer la transition énergie, donc voilà, vous produisez la science, et nous on s'occupe du boulot, on va faire la transition énergétique, faites-nous confiance, tout va bien se passer, et c'est à partir de là notamment qu'on va voir que l'entreprise va beaucoup mieux communiquer là-dessus, sur la question des énergies vertes, et surtout va commencer à élaborer ses premiers plans climat. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'esquisser des trajectoires climatiques pour dire, voilà, d'ici 2030, 2050, là c'est vraiment 2050, Total Energy communique beaucoup là-dessus, 2050, on va atteindre la neutralité carbone. Donc,
Yamina Saeb, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi les rapports du GIEC n'ont pas généré une évolution peut-être dans cette entreprise et dans les autres entreprises pétrolières et gazières, plus tôt en tout cas, avant les accords de Paris.
Oui, alors une chose qu'on retrouve dans les rapports du GIEC et en général dans tous les rapports internationaux aujourd'hui, ce sont ces trajectoires énergie. Et puis de ces trajectoires énergie, on fait aussi des trajectoires pour le climat. Et les premiers à avoir fait des trajectoires énergie, ce sont bien les majors de pétrolières. En fait, ça vient de là. À l'origine. Et puis après, l'autre point qui nous vient aussi de ces majors, c'est les émissions négatives. Alors, on parle souvent de l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, il est bien inscrit l'objectif en température du 1,5, mais il est aussi inscrit, par exemple, les émissions nettes. Quand on parle d'émissions nettes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en vérité, ça veut dire qu'on va continuer avec les énergies fossiles et puis après, soi-disant, enfin, on nous promet qu'on peut récupérer ces émissions-là et puis les mettre dans les sols. On nous dit pas comment, on nous dit pas où, etc. Et dans ces scénarios-là qu'on retrouve aujourd'hui, on va retrouver les scénarios, en fait, la neutralité carbone. On parle de neutralité carbone d'ailleurs, l'objectif du 1,5 dans les scénarios qui existent aujourd'hui. Ils intègrent tous le net, en fait. Ils ne sont pas basés sur zéro, ils sont basés sur le net. Mais en vérité, lorsqu'on se base sur le net, ça veut dire qu'on continue avec les énergies fossiles. Et ça, c'est quand même une grande victoire des énergies fossiles. Ils ont réussi ça rejoint cette histoire de récit, etc. Donc, ils ont réussi à faire inclure ça dans l'accord de Paris, qui est aujourd'hui le seul accord qu'on a pour se baser dans les discussions climat, etc. Et en même temps, à faire inclure ça dans tous les scénarios qui visent justement la mise en œuvre de cet accord de Paris. Donc, les liens sont extrêmement forts et l'influence est très, très importante.
Michael Courrier.
Oui, juste une petite anecdote, justement, pour rebondir sur ce que dit Yamina Saeb, sur l'histoire des modélisations énergétiques et de comment les majors pétrolières se projetaient déjà dans le futur. Je l'ai publié il y a à peu près un an, je pense, dans Mediapart. Il y a par exemple Shell, en 1989. Donc 89, c'est le GIEC n'a même pas encore sorti son premier rapport.
Oui, parce que le GIEC est fondé en
88.
Et ensuite, 90, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un rapport de modélisation énergétique. Au fait, tout est déjà là. Ça veut dire qu'ils se projettent jusqu'en 2100. Il y a deux courbes. Il y a une courbe business as usual. C'est qu'est-ce qu'on fait si on continue ? Et au fait, les trajectoires climatiques sont déjà extrêmement solides. C'est-à-dire que quand on voit en 2030, ils estiment que le réchauffement climatique sera déjà entre 1 et 2 degrés. Ils estiment ça. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a plus 1,2 degrés de réchauffement global.
Et qu'en Europe, l'Europe est un des continents qui se réchauffe le plus vite. Hein. On est à 2 degrés et des projections d'adaptation à 4 degrés sont imaginées ou initiées déjà en haut lieu, visiblement.
Oui, on oublie que l'Europe, il y a toujours cette image. C'est plutôt les zones tropicales qui seront les premières impactées, mais on se rend compte de plus en plus que l'Europe, notamment le bassin méditerranéen, fait partie
se
réchauffe très vite. C'est plus 20% que le reste de la planète. Bon, en tout cas, Shell, là-dessus, oui, il y a deux courbes, business as usual, où on voit que c'est la thématique, c'est la courbe actuelle, et une courbe de sobriété qu'on devrait suivre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, ils disent qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils disent qu'il faudrait qu'on plante des arbres. Il faudrait qu'on plante des arbres pour absorber le carbone. Donc déjà, les histoires d'émissions nettes et de compensation de carbone étaient déjà inscrites dès 1989 dans des rapports de Shell. Quoi.
En sachant qu'aujourd'hui, cette solution de planter des arbres, Yamina Saeb, n'est pas forcément portée par des scientifiques et n'est pas forcément concluante, je crois.
Non, c'est un mensonge, en fait. Ça permet de faire croire qu'on fait quelque chose. Et en vérité, dans la pratique, ça permet de retarder l'objectif étant de retarder l'action climatique parce que l'action climatique nécessite que l'on arrête les énergies fossiles. Donc, au lieu d'avoir un plan d'arrêt des énergies fossiles, on fait croire qu'on a des solutions de substitution et on continue. En vérité, dans leur scénario, ils restent dans le business as usual. Et puis après, ils vont vous mettre des forêts à droite à gauche, des petits arbres à droite à gauche. Et puis après, ils arrivent au net zéro. Et vous voyez, c'est vraiment... Moi, je me demande souvent, mais c'est des génies, ces gens, en fait. Ils ont réfléchi la chose tellement tôt. Et lorsqu'on regarde historiquement comment ça s'est fait, et puis on voit ce qui se produit aujourd'hui, on se dit, mais ils ont été super visionnaires, ceux qui ont réfléchi la chose, comment la faire. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui. Et on se retrouve à débattre, à baser notre futur sur des scénarios... pas du tout réaliste parce qu'ils sont basés sur ces fameuses émissions négatives.
Le collectif s'appuie sur le devoir de vigilance des multinationales. Il impose à Total de prévenir les risques que font peser ses activités sur les droits humains. Or, expropriées de leurs terres, les populations se retrouvent dépossédées de tout, explique l'Ougandaise Diana Dateruna de l'ONG Afigo.
En Ouganda, 70% de la population vit de l'agriculture. Quand les familles ne peuvent plus cultiver leurs terres, cela signifie que les possibilités de vivre, de se nourrir sont compromises. Cela veut dire aussi qu'elles ne peuvent plus payer les frais de scolarité pour les enfants. En fait, quand il n'y a plus d'accès à la terre, tous les secteurs de la vie sont affectés. Le processus de compensation est toujours en cours, mais malheureusement pour la majorité des personnes déjà indemnisées, ces compensations sont insuffisantes. Cela ne compense pas les terres perdues.
Les violations des droits humains sont aujourd'hui clairement identifiées, explique Juliette Renaud de l'ONG Les Amis de la Terre.
Ces personnes ont été privées de l'utilisation libre de leurs terres pendant jusqu'à 3 ou 4 ans, où certains sont toujours privés de leurs terres avant même de recevoir une compensation. Elles ont dû signer, céder leurs terres sous la pression, alors que les montants de compensation qui étaient proposés par Total étaient insuffisants pour racheter des terres ou des cultures équivalentes. Par ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas documenté jusqu'ici, mais depuis l'année dernière, à cause des travaux de terrassement pour la construction de l'usine de traitement de pétrole, il y a des inondations qui inondent du coup les terres agricoles dans la zone proche de Tilanga, du projet d'extraction pétrolière. Et enfin, un certain nombre de personnes affectées demandent aussi réparation par rapport à la violation de leur liberté d'expression et d'opinion parce qu'ils subissent des menaces et plusieurs arrestations arbitraires parce que tout simplement ils osent critiquer ces projets pétroliers.
C'était un reportage de Véronique Rebérotte, diffusé sur France Culture le 27 juin 2023. À ce stade de l'émission, voyons effectivement où on en est, c'est-à-dire Total Energy, depuis son changement de nom en mai 2021, se veut un acteur majeur de la transition écologique. Où en est l'entreprise? Et on voit bien qu'il y a ces reportages aussi, nombreux d'ailleurs, qui montrent que il y a toujours des investissements sur des projets fossiles désignés comme des bombes climatiques dans le langage scientifique.
Ouais, bon là il y a beaucoup, on pourrait dépiler pendant longtemps tout ce qu'il y a. Bon déjà je pense Yamina Seb a déjà un peu rappelé la base de la science. Déjà je pense que pour nos auditeurs et nos auditrices, faut déjà rappeler quand même, je vais dire deux chiffres, deux faits vraiment essentiels. Le GIEC nous rappelle que déjà les infrastructures fossiles qui existent aujourd'hui à travers le globe, que ce soit des raffineries, des puits de pétrole, des terminaux gaziers, etc. En termes d'émissions projetées, ces infrastructures nous font déjà dépasser les 1,5 degrés. Je parle sous la couche de Yamina Seb. Il y a aussi le fameux rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est vraiment pas un repère d'écologiste, qui a toujours été plutôt en faveur des énergéticiens. En mai 2021, ils nous ont dit il faut ne plus mettre un seul dollar, un seul euro dans tout nouveau projet fossile pour respecter la neutralité, pour rester dans les clous climatiques, on va dire. Donc c'est vraiment ce que nous dit la science, on pourrait dépier, il y a plein d'autres études qui nous amènent là-dessus. Rien qu'en 2023, par exemple, j'ai comptabilisé Total Energy a investi ou lancé une vingtaine de nouveaux projets fossiles. Soit d'extension, soit de nouveau, soit de prospection, soit d'exploration, une vingtaine de nouveaux projets fossiles en 2023. En 2022, c'était pareil, une vingtaine de nouveaux projets fossiles.
Donc, alors, ailleurs qu'en France,
c'est vraiment être à rebours, c'est vraiment un rebours de toutes les recommandations scientifiques.
Ailleurs qu'en France, je le précise, parce que depuis décembre 2017, si je ne m'abuse, l'État français a interdit tout nouveau projet sur le territoire français.
Oui, alors sachant qu'il y a quand même, ça c'est une petite parenthèse, il y a quand même le projet qui a été déposé là par un groupe canadien qui s'appelle Vermillon de forer 8 nouveaux puits de pétrole en Gironde. Donc c'est pas si simple que ça.
Sur un terrain sur lequel il y avait déjà des
il y avait déjà des puits.
C'est ce qui peut effectivement faire la différence.
On va siphonner jusqu'au bout les dernières gouttes de pétrole. C'est très symbolique. Moi je trouve que c'est autorisé jusqu'en 2040.
Voilà.
C'est pas de nouveau permis, mais on peut encore siphonner du pétrole. Et au fait, moi ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a tout ce que communique Total Energy. Et effectivement, les grands moments pour voir en acte qu'est-ce qui se passe, c'est le moment des bilans financiers, en fait. C'est quand ils annoncent leurs bénéfices nets. C'était en février dernier. Donc, ils ont quand même annoncé quasiment 20 milliards d'euros de bénéfices nets. Je rappelle que plus de 90% de ce chiffre d'affaires, enfin de ces bénéfices nets, sont dus à la vente de pétrole et de gaz. Donc, c'est déjà dans l'urgence climatique actuelle. 2023, c'était quand même l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Se faire 90% de son business de 20 milliards d'euros sur du pétrole et du gaz. Moi, je trouve ça vraiment, ça pose vraiment un problème. Ce qui est ensuite aussi intéressant, c'est de voir en fait les investissements. En fait, là, Total Energy a investi 16,8 milliards de dollars en 2023. En fait, il y a 5 milliards qui sont orientés vers les énergies vertes. Alors, c'est intéressant, on se dit 5 milliards, c'est quand même une somme gigantesque, hein, c'est pas rien du tout. Bon, le problème, c'est que sur l'enveloppe de ces 16,8 milliards, il y en a deux tiers qui sont réfléchis vers le pétrole et le gaz. Donc ça, ça pose vraiment un problème, ou un vrai débat, c'est est-ce qu'une entreprise qui met un tiers de ses investissements seulement dans les énergies vertes et les deux tiers dans le pétrole et le gaz, avec l'urgence climatique et écologique actuelle, est-ce qu'on appelle ça une bifurcation écologique ou pas ?
En sachant que dans le dernier plan climat de Total Energy, le dernier plan met justement l'investissement à 15%, je crois, d'énergie renouvelable pour 2030.
En fait, ils veulent encore augmenter d'ici 2030 un tiers de leur production de gaz fossile. Donc encore une fois, même quand on regarde de très près les plans climat, on voit que c'est pas du tout aligné sur les trajectoires qu'il faudrait, sur lesquelles il faudrait se projeter.
Yamina Saeb ?
Oui, en fait, pour rebondir sur ce point-là, mais je voulais rebondir aussi sur Uganda et l'entreprise canadienne dernière. Mm-hmm. Sur ce point-là, en fait, Total Energy et toutes les entreprises des énergies fossiles sont en situation de faillite écologique et climatique. En situation de faillite, si on transposait avec les banques, j'utilise ce terme-là exprès parce qu'on a connu, on se souvient tous de la faillite des banques. Qu'est-ce qu'on fait en situation de faillite ? On a mis les banques sous contrôle. Ben, il faudrait qu'on mette Total Energy et toutes les entreprises polluantes des énergies fossiles sous contrôle démocratique. Ça, bien sûr, quand on parle de ça, on devrait faire ça à notre niveau, au niveau européen. Et là, on aurait un véritable, on pourrait peser sur la trajectoire et on pourrait enfin décider notre avenir. Ensuite, je voulais revenir sur l'histoire de Uganda et Vermilion. Vermilion a demandé, c'est une entreprise, c'est un conglomérat canadien, et ils ont demandé l'extension. Ils font de l'exploration et ils ont demandé l'extension d'une licence qu'ils ont déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vermilion, quand il y avait eu le projet de loi Nicolas Hulot en 2017, il n'y avait pas ces extensions-là, il était prévu qu'elles seraient interdites. Bon, il y avait plein de contradictions dans ce projet de loi, mais ces extensions-là étaient prévues comme elles n'étaient pas prévues. Et donc Vermilion, ce qu'ils avaient fait à l'époque, ils avaient envoyé un courrier au gouvernement, au Conseil d'État, pour rappeler à la France ses obligations sous le traité de la Charte de l'énergie, qui est un traité multilatéral qui protège les investissements étrangers dans la production de l'énergie par le biais de l'arbitrage privé. Et donc, elle a rappelé à la France ses obligations sous ce traité-là, qui font que l'une des obligations, c'est que la France ne pouvait pas, sous ce traité-là, introduire dans son texte de loi une chose pareille. Donc, en fait, on a vendu, on n'a plus aucune souveraineté du tout, parce que tout le monde parle de souveraineté, mais il faut regarder les textes qu'on a votés, qui font que la loi, après, ça a été introduit dans la loi Nicolas Hulot. C'est pour vous dire qu'ils sont tellement... ce sont eux qui ils ont vraiment... Ces énergéticiens, ils ont des stratégies de long terme et ils ont tout un arsenal financier, juridique, etc., qui les aide pour mettre en œuvre leur stratégie. Ouais. Moi, quand j'ai vu Vermilion demander l'extension de sa licence, tout de suite, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé en 2017, qui n'était pas très connu. C'était les Amis de la Terre à l'époque qui l'avaient dénoncé. Et de la même façon, dans le cas de Uganda, aujourd'hui, la France est sortie de ce traité-là, fort heureusement. Mais au moment où il négociait la modernisation de ce traité-là, en 2020, Uganda, la ministre de l'énergie de Uganda, était venue à Bruxelles avec... Uganda a failli être le premier pays africain à devenir membre de ce traité-là. Vous imaginez le désastre. Et par un concours de circonstances, mais vraiment incroyable, par moment, il y a toutes les étoiles s'alignent. Ben, on a réussi avec quelques collègues à éviter que Uganda devienne, avec des collègues de la Commission européenne, fasse partie de ce traité-là. Et aujourd'hui, l'Union européenne travaille à sa sortie. Et normalement, avec la sortie de l'Union européenne, la sortie de la France, de l'Allemagne et des autres pays de l'Union, en vérité, ce traité-là va devenir caduque. Mmh. Mais ce traité-là, il avait été mis en place justement pour soutenir ces investissements-là. Et c'est vraiment, lorsque vous regardez le fonctionnement, comment est-ce qu'on s'est retrouvé enfermé dans les énergies fossiles, il faut bien regarder tout le droit international, le droit des entreprises qui a pris le dessus sur le droit des êtres humains, en fait.
Donc Yamina Saeb parle de l'Ouganda. On lit dans votre livre aussi, Michael Correa, que donc la Fédération internationale pour les droits humains a appelé Total Energy à enquêter sur les allégations de diffusion de désinformation et de menaces par ses employés ou ses sous-traitants sur le projet ICOP. Donc ça, c'était en décembre 2020. Où en est-on 3 ans après ?
Il y a aussi le Parlement européen qui a voté une motion pour pointer du doigt les violations en termes de droits humains et de droits de l'environnement de ce projet ICOP. Le projet va très bien. Ils ont commencé à démarrer en juillet dernier les travaux. Ils ont dit d'ailleurs que les infrastructures étaient peintes en beige pour se fondre dans la savane ougandaise. Donc ça va plutôt bien.
Parce que des scientifiques ont montré que le projet pouvait mettre à mal la biodiversité.
Oui, bien sûr. En fait, c'est pas n'importe quoi comme projet. C'est quand même
en danger.
Il faut rappeler ce que c'est quand même comme projet. C'est 400 puits de pétrole qui sont forés en Ouganda. L'Ouganda, c'est pas n'importe quoi comme régime. C'est un des plus vieux régimes autoritaires en Afrique. Museveni, donc qui est le président ougandais, est là depuis 1986. Donc c'est pas n'importe quoi comme régime. C'est forer 400 puits de pétrole dans une région, c'est quand même la région des Grands Lacs, en fait. Je veux dire, je pense qu'on a tous cette image-là des éléphants, des chimpanzés, des zèbres. On est vraiment là. C'est vraiment là qu'on va forer du pétrole. Il y a une partie, il y a quelques dizaines de puits de pétrole qui vont être forés dans un grand parc naturel extrêmement sensible en termes de biodiversité. Et ensuite, pour acheminer le pétrole jusqu'à la côte tanzanienne notamment, on construit un oléoduc de 1500 km de long. C'est quasiment la distance entre Paris et Rome. Un oléoduc qui doit être chauffé à 50 degrés pour tenir le pétrole de façon liquide. Donc ça, c'est déjà un peu pour dresser le portrait de cette infrastructure fossile. Ensuite, on l'a un peu entendu dans le reportage. Donc effectivement, il y a la Fédération internationale des droits humains, il y a des ONG comme Survie, comme les Amis de la Terre qui ont été sur place. Eux, ils estiment qu'environ 100 000 Ougandais et Ougandaises qui ont été impactés par ce projet. Alors, impactés, ça se traduit comment ? C'est, en gros, le projet va grignoter tout ou partie de leur terre. Donc, c'est des gens encore qui cultivent leur terre, c'est leurs conditions matérielles de vie sur lesquelles ils se font en partie ou tout en partie dépossédés.
Même s'il y a eu des indemnisations ?
Alors, il y a eu des indemnisations, mais encore une fois, pour terminer là-dessus, il y a deux choses. Ces organisations pointent que la compensation n'est pas toujours à la hauteur. Encore une fois, c'est, imaginez, des gens de Total Energy dans un régime autoritaire qui vont voir des paysans et des paysannes ougandaises pour dire bon bah est-ce que tu signes ou pas quoi. Donc c'est un peu compliqué quand même en termes de pression. Et justement en fait ces ONG disent que le terme est précis en termes de droits humains, leur consentement libre et éclairé n'a pas été respecté. Alors cette histoire on est quand même au tribunal avec cette histoire là, c'est-à-dire qu'en juin dernier au tribunal judiciaire de Paris, si je ne me trompe pas, il y a eu 26 Ougandais et Ougandaises, avec l'appui de plusieurs assos françaises ougandaises, qui ont assigné en justice totale et qui demandent réparation vis-à-vis de cette spoliation, en tout cas de l'impact de ce projet. Donc on est quand même en justice. Le projet démarre, il est censé être opérationnel en 2025, mais il y a cette question-là aussi juridique
qui est en cours.
Même Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, dit de lui-même que c'est devenu le symbole de l'antipétrole. Je veux dire, il y a une campagne internationale aussi qui dénonce ce méga projet pétrolier-là.
Pierre-Louis Choquet, vous vouliez réagir sur différents points, parce qu'on a beaucoup parlé.
Oui, sur différents points. Peut-être pour revenir sur le modèle économique de Total, qui, c'est vrai, reste très ancré dans les énergies fossiles. En fait, ce qui est préoccupant par rapport à ce que disait Jean Jouzel à la fin de l'introduction qu'on a entendue tout à l'heure, c'est qu'on peut plus vraiment, et ce que dit aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie qu'a cité Michael Correa, c'est qu'on peut plus vraiment raisonner en termes de compensation, c'est-à-dire je suis une entreprise, j'ai à la fois des projets fossiles, mais en même temps j'essaie de les compenser en développant des projets d'énergie renouvelable ou de integrated power, comme ils disent, donc de solutions qui seraient pas aux dépendances des énergies fossiles. Parce que en fait le problème, c'est que si l'Agence internationale et la plupart des scientifiques du climat disent plus de nouveaux puits, ben c'est plus de nouveaux puits en fait, tout simplement. Et qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre comment l'entreprise parvient à continuer à construire ce discours. Par exemple, là,
vous avez travaillé, je crois, sur la RSE, d'entreprises comme Total.
Tout à fait. En fait, ils sont pris dans des contraintes. Donc, quand je dis ils, c'est le top management de l'entreprise. Donc, le célébrissime PDG, je n'ai pas besoin de dire son nom, mais aussi tous les hauts cadres qui l'accompagnent. Pour eux, leur principal objectif, c'est de satisfaire aux exigences de leurs actionnaires, qui se traduisent avant tout par des attentes en termes de rendement sur capitaux. Donc ça, c'est une cruelle réalité pour eux. Après, elle est aussi avantageuse à certains égards. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, par exemple, le groupe a dégagé 36 milliards de cash flow opérationnel. Ça veut dire ce qu'il retire de son exploitation, ce qu'il est capable de tirer de son exploitation. Et en fait, plus de la moitié de ces cash flows, 19 milliards, sont générés par exploration-production. Donc en fait, c'est vraiment l'extraction de pétrole et de gaz qui reste vraiment la locomotive économique du groupe. Et ça, c'est très difficile de s'en défaire. Là, par exemple, découverte significative a été faite dernièrement en Namibie, sur un gisement qui s'appelle Vénus. Le groupe estime qu'il a découvert des gisements donc, qui sont à plusieurs centaines de kilomètres des côtes namibiennes, donc c'est des gisements offshore, que plus de 3 milliards de bruts de barils ont été découverts, et c'est une des plus importantes découvertes qui a été faite par le groupe depuis une vingtaine d'années en Afrique subsaharienne. Et donc ça, aujourd'hui, enfin c'est un projet qui est en train de démarrer, qui sera probablement opérationnel avant la fin de la décennie, et qui absorbe quasiment 30% du budget exploration et évaluation en fait de la branche exploration-production totale. Mais il faut voir que l'entreprise est en train d'investir massivement sur des projets qui sont très structurants pour son avenir et dont on a du mal à voir comment ils peuvent être compatibles avec une stratégie climat qui soit en accord avec la cible de 1,5 degré.
Encore un jour, les larmes du monde se déversent en silence. La coupole crache les pleurs du ciel sur nos épaules ruisselantes. On se voile la face et les forêts brûlent. La même violence. Fondent les glaces, s'échappent lits de rivières. La même cadence. Pourtant, ce que le monde est beau, que le monde était beau.
C'est C'était Teamed Up qui chantait Les larmes du monde. C'est un choix proposé par Elena Rouxel, étudiante à Sciences Po Poitiers. N'hésitez pas effectivement à nous faire part de vos envies, de vos choix musicaux, si vous le souhaitez, auprès de l'émission et de l'équipe, bien sûr. Et c'est la suite de votre magazine de l'environnement de cause à effet sur France Culture. Nous sommes en direct et nous nous intéressons à l'entreprise Total Energy, alors qu'une commission d'enquête se déroule au Sénat depuis le 25 janvier. Nous sommes avec Michaël Correa, journaliste climat à Mediapart, auteur du livre Le mensonge total, un livre édité au Seuil, avec Yamina Saeb, ingénieure et docteur en énergétique, professeure à Sciences Po Paris et l'une des auteurs du troisième volet du rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique, et puis Pierre-Louis Choquet, sociologue, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Paris. C'est cela, rattaché à une, non, à une, il est indépendant, oui, rattaché à l'université.
Bonjour Guillaume Fariol.
Bonjour.
Vous allez la suivre pour nous de l'extérieur, cette Assemblée Générale. On entend derrière vous hein, ces manifestants qui sont là depuis l'aube. Ils conduisent leur action à l'intérieur, au sein même de l'entreprise.
Oui, parce que ce vent de rébellion qu'on vient d'entendre, eh bien, il souffle aussi en effet sur certains actionnaires. Et c'était déjà le cas hein, l'année dernière, ce qui a le don de mettre de mauvaise humeur le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Il s'exprimait en mai 2022 au micro de BFM Business.
Moi, je veux bien qu'on donne beaucoup de bruit à quelques institutionnels français qui sont pas contents, mais qui gardent leurs actions, voire qui les augmentent. Il y a un côté tartuffe dans cette affaire, ce qui me rend un peu en colère, je le dis.
Et Grégoire, est-ce qu'ils sont nombreux, ces actionnaires rebelles, appelons-les comme ça?
Alors, ils représentent moins de 1,4% du capital, selon Total Energy. Et l'an dernier, la politique climat du groupe a été approuvée à plus de 89%. La majorité des actionnaires a donc fait ses comptes, explique Patrick Raison, président de l'Association nationale des actionnaires de France.
La marge dégagée donc sur les énergies carbonées est bien supérieure à celle dégagée aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Les actionnaires aujourd'hui de Total, la majorité sont des actionnaires anglo-saxons, hein, des fonds de pension américains et autres, qui eux donc recherchent bien sûr une rentabilité au niveau de leur investissement, une progression du cours de bourse et puis du dividende. Et en fin de compte, Total n'est pas seul au monde, hein, il y a d'autres grands groupes pétroliers mondiaux. Donc si la rentabilité de Total se dégrade à court terme, on peut penser qu'il y aura des arbitrages sur des groupes qui ont une meilleure rentabilité.
Reportage diffusé sur France Info le 26 mai 2023 lors de l'Assemblée Générale de l'entreprise. Yasmina Saeb, on parlait effectivement des actionnaires aussi. Hein, alors on sent quand même que dans l'entreprise, ça fait bouger un petit peu hein, les lignes. Et puis par contre, à l'extérieur, on voit aussi la difficulté de l'entreprise pour recruter chez des étudiants de grandes écoles notamment. On est peut-être là aussi dans un système qui bouge.
Alors, pour faire bouger les choses, il faudrait sortir Total et les entreprises des énergies fossiles et de toutes les entreprises qui polluent, en fait, des marchés financiers. C'est la seule façon de pouvoir avancer, de pouvoir mettre quelque chose, de commencer à mettre quelque chose en place. Les sortir des marchés financiers, parce que sinon, les actionnaires demandent de la rentabilité sur du court terme, et c'est ça qui donne de nouveaux forages. Donc, ils ne vont jamais arrêter de faire de l'exploration et des forages, parce que les actionnaires, ils voudront toujours un retour sur investissement le plus élevé possible, dans un laps de temps le plus court possible. Donc, le seul moyen d'arrêter cette machine infernale, c'est de sortir ces entreprises-là des marchés financiers. Et un moyen simple de les sortir des marchés financiers, c'est la comptabilité environnementale. C'est que ces entreprises-là, elles sont en situation, comme je le disais tout à l'heure, de faillite climatique et écologique. Et donc, elles sont redevables vis-à-vis des populations du monde, et en particulier des populations où il y a eu des forages, etc., comme ce qui était cité tout à l'heure. Elles doivent payer pour les dégâts qu'elles ont faits. Et pour faire ça, il faudrait qu'il y ait la puissance publique agisse. Et le meilleur niveau d'action pour nous, c'est le niveau européen. Et pour faire ça, pour l'ensemble des entreprises polluantes, et pas juste Total Energy, mais aussi, par exemple, on ne parle pas beaucoup de la pétrochimie. La pétrochimie, elle reste silencieuse, personne n'en parle, mais la pétrochimie fait partie des entreprises. C'est le premier grand pollueur après les énergies fossiles. Et donc, il faudrait que l'on reprenne le contrôle que nous populations, que l'on reprenne le contrôle. Là, par exemple, l'assemblée, la dernière assemblée générale, et donc je pense que c'était le PDG de Total qui disait ces actionnaires-là, ils représentent 1% en fait du capital. On ne peut pas agir quand on représente 1%. Il faut avoir 100% du capital.
Après, il y a Mina Saeb, quand Patrick Pouyanné dit, ou sur d'autres, dans d'autres situations, hein, à l'université du MEDEF notamment, qu'il répond à la demande, il n'a pas complètement tort. On est aussi dans une société qui n'est pas forcément prête à se séparer de tout ce qui a été produit ou qui génère cet usage des énergies fossiles.
Non. Et on est encore dans la question du récit. Oui. En fait, nous, citoyens, nous n'avons pas une demande d'énergie fossile. Est-ce que vous avez une demande en pétrole? Est-ce que vous avez besoin de pétrole? Vous avez un besoin de mobilité, par exemple. On va imaginer que vous vous déplacez en voiture parce que, pour je ne sais quelle raison. Et donc, du coup, vous avez un besoin de mobilité. Votre besoin, la réponse à votre besoin de mobilité a été jusqu'à présent la réponse depuis la Seconde Guerre. La réponse apportée par les pouvoirs publics a été principalement une réponse avec la voiture individuelle. Et donc, lui, quand il dit « je réponds à une demande », ce n'est pas vrai. Il répond à... Il joue avec les mots. Il répond pas à la demande de mobilité. Parce que là, si on avait des politiques qui répondaient à la demande de mobilité autrement, ben son discours tomberait à l'eau. Et c'est là où je vous dis, ils sont brillants, ces gens. C'est parce que ils ont réussi à utiliser, le politique, le juridique, le légal, le financier pour justement maintenir le statu quo. De leurs activités et maintenir le statu quo et faire grossir leurs activités, continuer leurs activités en fait.
Michael Correia, alors on se pose toujours la question aussi, parce que là on parlait des actionnaires, il y a aussi les soutiens dont bénéficie Total Energy côté banque, donc finance, côté politique aussi, hein, des soutiens politiques, on peut parler de la diplomatie de l'or noir.
Oui, bon là tout ce qu'on a soulevé, on pourrait encore continuer. Hein. Bon, sur les actionnaires, déjà on rappelle que Total cajole ses actionnaires. Hein. Le dividende en 2023 a augmenté de 7%. En termes de volume, c'est 16,6 milliards de dollars qui ont été distribués aux actionnaires. C'est trois fois plus que la somme qui a été allouée pour les énergies renouvelables. Donc on met trois fois plus d'argent pour les actionnaires que pour faire sa transition écologique. Effectivement, en termes de banque, oui, je rappelle que depuis 2016, c'est le Total a réussi à lever 15 milliards de dollars auprès de trois grandes banques françaises, hein, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. BNP Paribas, on considère que c'est la banque la plus sale d'Europe en termes d'énergie fossile, celle qui finance vraiment. Alors effectivement, après, moi j'appelle ça... moi je parle à chaque fois de capitalisme fossile, hein, j'ai pas peur de dire les mots. Pour moi, il y a une espèce de triangle des Bermudes, au fait, qui s'opère entre effectivement les États, les industriels fossiles, les banques qui sont là pour financer les projets, mais aussi pour encaisser, enfin je veux dire, les grands actionnaires de Total Energy. C'est encore une fois BNP Paribas, le Crédit Agricole, c'est les grands fonds de gestionnaires d'actifs, les grands fonds de retraités comme BlackRock, comme Goldman Sachs,
etc. Eux, ils trouvent leur intérêt.
Donc, quand ils mettent l'argent, ils récupèrent l'argent après. Total Energy, les industriels fossiles, et bien évidemment, aussi à chaque fois les États. Les États sont là pour faciliter aussi ces projets. On parlait du projet en Ouganda. Effectivement, on s'est vraiment aperçu que la diplomatie française, en tout cas le Quai d'Orsay, était là aussi pour faciliter le business. Alors, on peut se dire, pourquoi pas? C'est le rôle aussi de la France ou du Quai d'Orsay de faire la diplomatie économique.
À la COP28 aussi, à Dubaï.
Alors la COP28 aussi à Dubaï, c'est quelque chose que j'avais révélé. Il y a deux choses à la COP26 à Dubaï. On parlait justement de cette question de la demande qui est toujours l'argument massu de Patrick Pouyanné. Donc effectivement déjà, de toute façon, on ne fait pas. Enfin, la demande elle-même, elle fait pas de toute façon légitimité de ce dont on fait commerce. Enfin, je veux dire, il y a bien une demande en drogue, il y a une demande en médicaments, une demande en armes. C'est pas pour ça qu'on abonde les marchés. Je veux dire, là on parle d'énergie fossile. Je veux dire, les énergies fossiles, encore une fois, c'est le moteur de la crise climatique. Crise climatique dont les impacts tuent des personnes. Enfin, je veux dire, en France, les derniers chiffres de l'agence Santé publique France, c'est entre 2014 et 2022, le nombre de morts à cause des canicules en France, c'est 33 000 décès.
Le dernier et chaque année, est toujours plus chaude que la précédente.
Le dernier chiffre de 2023, c'était 1500 morts. En tout cas, la demande, elle ne fait pas cette légitimité-là. Et effectivement, les groupes industriels fossiles ont toujours cherché à orienter la demande et à saboter les politiques publiques de régulation. C'est-à-dire, à la COP28 de Dubaï, il y avait quasiment 2500 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient là dans les couloirs des négociations. Ce n'est pas pour rien. C'est justement pour qu'il n'y ait pas un accord extrêmement contraignant. Et quand on lit l'accord final... de Dubaï, en fait, qu'on connaît un peu le langage des énergéticiens, des industriels fossiles, en fait, c'est truffé d'éléments de langage de l'industrie fossile, c'est ça qui est assez intéressant. Et en tout cas, je termine là-dessus un peu pour rebondir aussi de ce que dit effectivement Yamina Seb sur la question de la demande, ce faux argument. En fait, quand on dit ça, on entretient sciemment la confusion entre la demande et les besoins sociaux. En fait, si je veux caricaturer un petit peu, quelqu'un qui roule en 4x4 ultra polluant dans Paris où il y a encore un réseau assez performant de transport public, est-ce que c'est un besoin ou pas? Est-ce que quelqu'un qui va prendre, parce que ça existe, des gens qui vont prendre leur jet privé comme ils prennent leur taxi pour faire un Paris-Nice ou un Paris, ou des gens qui font faire des week-end shopping en avion, est-ce que ça c'est un besoin social? Par contre, moi j'estime que par exemple, un besoin social, ça peut être effectivement, je sais pas moi, un travailleur, un ouvrier qui habite en campagne, où il y a un réseau de transport public quasiment inexistant et qui est obligé de prendre sa voiture. Donc c'est vraiment essayer d'entretenir une confusion de façon totalement délibérée entre quels sont nos besoins sociaux, et on a des besoin en pétrole dont on va avoir une vraie difficulté à s'en défaire. Je veux dire, on a toujours un besoin de pétrole pour certains médicaments, pour certains justement appareils productifs dont on aura vraiment encore beaucoup de mal à se décarboner. Donc en faisant ça, il tue le débat. En fait, il tue le débat de comment on organise, comment on planifie la sobriété de façon juste et équitable.
Vous restez avec nous, il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et donc nous sommes avec Guillaume Delacroix pour revenir sur le naufrage du Rubimar au large du Yémen et sur la menace de pollution majeure dans la région. Une catastrophe écologique est-elle imminente en mer Rouge? Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Aurélie. 10 jours après le naufrage du Rubimar, un navire chargé d'engrais chimiques, l'alerte reste maximale au large du Yémen. Le bateau avait été touché par des missiles lancés par les rebelles Houthis fin février. Le 2 mars, il a coulé et aux dernières nouvelles, tout danger immédiat semble écarté. Les experts européens que j'ai interrogés m'ont dit qu'aucune pollution n'était observée à proximité. L'avant du navire sort de l'eau, l'arrière est sans doute posé sur le fond. Alors pour l'instant, en surface, on n'a vu que de l'huile provenant apparemment de la salle des machines, là où le bateau a été touché par les missiles le 18 février. Et sur le fond, son ancre a endommagé des câbles sous-marins, provoquant des coupures d'Internet dans la région.
Mais les soutes sont pleines d'engrais. Quels sont les risques pour l'environnement dans la zone?
D'abord, il faut savoir que le Rubimar contenait 280 tonnes d'hydrocarbures. C'est beaucoup, mais comparé aux grandes catastrophes passées, c'est 100 fois moins que l'Erika, ce pétrolier qui avait provoqué une marée noire en Bretagne en 1999, et c'est 1000 fois moins que la Moco Cadiz, échouée dans le Finistère en 1978. Alors j'en viens aux engrais. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que les produits transportés par le Rubimar sont sous forme solide. Il s'agit de granulés de phosphate et de sulfate d'ammonium. Il y en a 22 000 tonnes. Le produit n'est pas explosif, comme celui qui avait dévasté le port de Beyrouth en 2020. Il met du temps à se dissoudre dans l'eau. Tant qu'il n'y a pas de brèche dans la coque du navire, ça va. Cet engrais va se dissoudre très lentement, donc avec un effet limité sur l'environnement marin. Par contre, si la coque se brise, là, ce sera la catastrophe. Pourquoi? Eh bien, ces engrais libéreraient de l'azote en quantité colossale, une nourriture qui entraînerait la prolifération des algues et la disparition de tout l'oxygène de l'eau. Ce serait la mort assurée pour les autres espèces, végétales comme animales.
Alors justement, de quoi se compose l'écosystème de la mer Rouge et qu'est-ce qui est le plus menacé?
Cette mer, presque fermée, est un trésor de biodiversité, avec le Yémen d'un côté, l'Érythrée juste en face et au milieu les îles Aniche, un archipel tropical très sauvage. Il y a des coraux, des herbiers sous-marins servant d'habitat à 400 espèces de poissons et d'invertébrés, des dauphins, des baleines, mais aussi des espèces fragiles comme les tortues de mer et les dugongs, des mammifères herbivores qui ressemblent aux lamantins. Par ailleurs, les habitants de cette région vivent de la pêche. Ils sont également en danger.
Et à ce stade, Guillaume, qu'est-ce qui peut être fait pour éviter la catastrophe écologique?
Le gouvernement yéménite dit avoir préparé des barrages flottants. C'est ce qui est fait en général dans ce genre de situation. Mais dans l'idéal, il faudrait remorquer le bateau à terre pour le vider de sa cargaison chimique. Une équipe internationale mandatée par les Nations Unies s'y prépare. Reste à trouver un port d'accueil. Et là, ça coince. Personne n'en veut. Le Yémen est en guerre civile. Il renvoie la responsabilité de cette affaire au propriétaire du navire. Or, le Rubimar est enregistré au Royaume-Uni, mais il battait pavillon du Belize et était exploité par une société libanaise. Un imbroglio juridique qui laisse craindre le pire pour la suite.
Donc on va bien sûr suivre la suite grâce à vous. Merci Guillaume Delacroix.
Merci à vous.
Et bien sûr, votre article sur ce naufrage et ses conséquences pour la région, pour ses habitants aussi, l'environnement, votre article est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur lemonde.fr.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Yamina Saeb, dans les dernières minutes de l'émission, je me tourne vers vous avant de solliciter Michael Correa et Pierre-Louis Choquet. Peut-être ajouter quelque chose sur les solutions, même si je sais qu'il y a un autre thème qui vous tient à cœur, c'est que vous dites qu'il faut plus parler de transition écologique, il faut parler de métamorphose écologique parce qu'on n'a plus le temps. Et ce temps-là, il est trop précieux ces quelques dernières années. 2030, c'est vraiment une limite.
Il faut que nous, citoyens, on reprenne le contrôle sur ces entreprises-là. Il n'y a que la démocratie qui va nous sauver. Il faut qu'on arrive à avoir à nouveau ce contrôle-là qu'on avait eu autrefois, mais qu'on a perdu. Donc, ma génération ne se souvient pas du tout de cette époque-là. Et ça passe par des politiques. Il faut du courage politique. Ça, malheureusement, ça manque.
Vous diriez une nationalisation de l'entreprise, c'est ça ?
Une nationalisation, ça nous coûterait de l'argent, mais si on faisait la même chose que ce qu'on a fait avec quand les banques sont en faillite, c'est pour ça que je vous parle de la faillite climatique. Il faudrait introduire le concept de faillite climatique et avec une comptabilité environnementale, on verrait que on démontrera assez facilement que Total, il faudra la mettre sous le contrôle public, quoi, enfin un contrôle démocratique pour justement faire payer, parce que si on fait une nationalisation, on pourrait se retrouver dans la situation où on devrait payer, dédommager, vous imaginez, dédommager les actionnaires de Total, ça serait la pire des choses, quoi. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait qu'on devrait avoir, il faudrait que ces profits-là, ces dividendes-là qu'ils ont pris, il faudrait qu'on les récupère par le droit, parce que le droit, c'est quand même le politique, c'est nous qui faisons le droit, quoi, par le droit, qu'on les récupère et que l'on fasse avec la métamorphose dont on a besoin pour continuer à vivre sur Terre.
Merci, et puis on peut aussi imaginer qu'une grande partie des employés, des salariés de Total ont envie de cette métamorphose aussi, il ne faut pas l'oublier. Pierre-Louis Choquet, peut-être ?
Oui, tout à fait. Yamina Saeb fixe un horizon assez ambitieux, mais si on regarde ce qui se passe déjà, qui est très modeste, grâce à cet horizon, c'est plus de moyens pour la justice. Nos auditeurs savent peut-être qu'il y a plusieurs procès qui sont en cours contre le groupe Total Énergie, dont l'un qui est assez intéressant, qui mobilise la loi française sur le devoir de vigilance. Et qui fait valoir que le groupe Total manque à son devoir de vigilance envers la planète continuant à développer des projets d'énergie fossile. Et il faut savoir que la justice française, les magistrats sont encore peu informés de ce nouveau type de contentieux climatique qui va probablement faire partie de l'arsenal de solutions qu'il faudrait mobiliser pour contraindre ces entreprises à se conformer aux droits, en fait, tout simplement.
Il faut quand même préciser que par rapport à ce devoir de vigilance, en février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé irrecevable la plainte. Alors, pour motif procédural et non sur le fond, du coup, une nouvelle plainte a été déposée, si je ne m'abuse.
C'est en cours d'appel.
Non, sur la recevabilité.
Pour qu'on parle, ce sera mi-juin, on saura pour qu'on parle enfin vraiment du fond. C'est ça.
Voilà, donc il faudrait permettre que la justice puisse travailler de façon plus rapide sur ces procès et prononcer des décisions qui soient qualifiées, bien informées, actualisées à partir des dernières connaissances climatiques.
Michael Correa.
On parle un peu de solutions, effectivement. On a parlé de nationalisation, voire socialisation de Total Énergie. On a parlé de la bataille juridique, en tout cas, l'étau juridique qui se resserre. Bon, faut pas oublier, on a aussi tout un panel de politiques publiques pour réguler la demande, pour assécher aussi Total Énergie. Je vais juste vous en citer trois très rapidement. Le transport, c'est quand même le premier secteur émetteur en France, c'est 30% des gaz à effet de serre de la France. Je veux dire, c'est quoi la politique publique aujourd'hui de la France pour développer le train? Enfin, je veux dire, il y a encore début de semaine, on a appris que l'histoire du passerail, c'est ce qu'a mis en place l'Allemagne, le Climate Ticket, c'est genre 50€, vous pouvez aller sur tous les transports publics, TER, etc. Ça a finalement été annulé. Il y a la rénovation thermique, c'est-à-dire c'est le deuxième secteur le plus émetteur de France, le bâtiment. C'est une mesure à la fois de justice sociale et à la fois climatique. Bon, Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait raboter d'€1 milliard l'enveloppe sur la rénovation énergétique.
Et enfin, la taxation. Sobriété, économie.
Et la taxation des super profits, je veux dire. L'Italie l'a fait, l'Espagne l'a fait, même les très libéraux britanniques l'ont fait, l'ONU le demande, la Commission européenne le demande, voilà, et on ne l'a toujours pas fait.
Merci à tous les trois, merci Yamina Saeb, Pierre-Louis Choquet et Michael Correa. Je rappelle le titre de votre livre, Le mensonge total, un livre édité au Seuil, et bien sûr la biographie, les liens sur le sujet vous concernant. Les choix musicaux aussi sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et l'ensemble de nos émissions en réécoute, bien sûr.